Cosé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Rizamarum Zetren sur RFI.
C'est le début d'une saison, on va dire, spéciale dans laquelle nous allons vous présenter toute une série d'émissions produites depuis Paris. C'est pour la première fois que je délocalise l'émission à un autre pays et c'est tout un plaisir de commencer à Paris. Vous le savez, il y a une grande communauté haïtienne dans cette ville et dans le champ culturel qui font des réalisations d'exception. Bonsoir à chacun de vous. Merci de votre fidélité au programme Cosé Kilti. C'est parti. Et maintenant, première émission dans série ça, nous allons permettre ou découvrir, ou plutôt redécouvrir Guy Férolus, lycée écrivain, journaliste, mais tout réalisateur. Vous connaissez la web radio culturelle Haïti Inter et notamment la rubrique Fabrique littéraire. Et bien, sans doute, vous connaissez Guy, il va parler nous de la ville à réalisation lit. Restez avec nous. Bonsoir Guy.
Bonsoir Rizamaoum et bonsoir à tous, avec ceux qui nous écoutent surtout et puis merci pour l'invitation.
Et je suis très heureux de débuter cette série d'émissions avec vous. Je vous suis depuis un bon bout de temps déjà sur les réseaux sociaux. J'aime bien les programmes de Haïti Inter et quand je suis allé chercher qui vous êtes vraiment, je vois qu'à côté du journaliste que vous êtes aussi auteur et réalisateur. Vous venez d'ailleurs d'organiser la grande première de votre film Errance. C'était le jeudi 29 juin au ciné Le Brady. Dites-nous comment ça a été, Guy Férolus.
Ah oui, pour moi, effectivement, c'était une... On va dire que c'était... Je suis encore dans l'émotion parce que c'était pour moi... En fait, c'était une belle fête et puis c'était aussi l'aboutissement. Je peux dire d'un travail très, très long. Et donc, le public a aimé. Donc, on a fait ça le comble. Donc, vraiment, c'est, pour moi, c'est un énorme plaisir. Mais... Mon cas dit si vous regret gain c'est que puis faut mon qui était dans ça là c'était des français des
c'est
étrangers
pas haïtien.
Donc t'es gain haïtien mais il était en très petite minorité donc évidemment je peux comprendre aussi parce que le film c'est un film un peu intellectuel, c'est un film d'auteur et qui a pile référence littéraire donc mais quand même c'est pas un film qui chiant, c'est un film avec un scénario qui donc a dit vraiment qui est assez simple à suivre donc c'est dommage donc c'est le game game mais vraiment c'était
on, mais pourtant on t'a fait un pile promotion auprès du public haïtien.
Oui c'est vrai nous fait un pile promotion mais il faut savoir que Haïti Inter surtout comme fait évidemment que c'est une web radio et tout ça mais nos productions c'est surtout en français donc parce que public novisien sont public et qui francophone parce que mon cap suivi c'est à la fois des haïtiens mais c'est aussi des français, des suisses, des africains, surtout des antillais. Donc voilà, c'est un public qui, francophone qui est très hétérogène.
Un film avec notamment Jean-Fritz Audenay, dit John Jazz, qui campe un poète haïtien, SDF à Paris, qui déambule dans les rues en se remémorant sa vie passée. On ne va pas trop rentrer dans l'histoire qui est racontée dans ce film, puisque certainement il y a d'autres projections prévues. Mais j'aimerais savoir ce qui vous a inspiré ce film, Guy.
Alors oui, c'est un film très fort pour moi. En fait, je veux dire que c'est un film... personnel à plusieurs niveaux parce que déjà à Paris en fait je pense que c'est un peu le même cas dans les autres villes occidentales, c'est difficile pour un artiste, pour un écrivain haïtien ou autre en tant qu'immigré d'arriver comme ça dans cette ville où vraiment il y avait déjà on va dire un bouillonnement culturel assez fort et de réussir à s'imposer. Et souvent je pense que Guéantis c'est qui fait une espèce de dépression parce que fait l'idée de conquérir Paris et tout ça ben voilà ben c'est pas le cas parce que c'est difficile et puis vivre aussi de son art c'est très 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 difficile et je pense un peu le monde connaît un peu l'artiste un peu l'écrivain connaît tout parce que leur travail leur fait leur activité à côté et pour vivre et puis voilà les ouvriers ne pas productifs encore même genre donc les facile pour que you ont artiste effectivement est tombé dans la précarité et c'est le cas et fait le personnage principal et on va dire de ce film c'est un poète et qui du jour au lendemain effectivement s'est retrouvé à la rue parce qu'il n'arrive pas à vivre de son art. Il écrit poésie, il n'est pas à vendre livre, donc du coup il s'est retrouvé SDF à la rue et puis il est sombré dans la solitude et le désespoir. Donc voilà, pour moi c'est un film personnel parce que c'est des choses que j'ai pas vécu personnellement, mais en fait autour de moi j'ai vu ça et puis c'est des choses presque des proches ont vécu, pas dans l'extrémité. Bah les films pas ces films d'exploiter bagaille à fond. Peut-être pas dans cette extrémité-là, mais des bagailles, effectivement, j'ai vu autour de moi, oui.
Certainement. Oh, Jean-Fritz Audenay, d'une jazz, d'Abtandeli, avec Cheita Vital, lui joint premier rôle dans le film ça, comme par un hasard.
Oui, effectivement, c'est un hasard, parce que, en fait, pendant 2 ans, on a travaillé sur ce petit projet. J'ai écrit le scénario pour, en fait, spécialement, c'était un artiste et un autre comédien haïtien que j'aime beaucoup, qui était sur le projet. Et finalement, à la dernière minute, ben voilà, il a eu un problème, il a pas pu faire le tournage. Et puis, à ce moment-là, c'était au même moment, et Jean-Fritz Audenay était à Paris en promotion pour son spectacle. Et voilà, pour nous, on l'a rencontré, on a fait une interview avec lui, c'était un coup de cœur. Je me suis dit, il serait génial dans le poste, en fait dans le rôle, pardon. Et puis j'ai lui envoyé le scénario, il a dit oui tout de suite. Et voilà, après tout s'enchaîne, et puis voilà. Donc voilà, je suis très content, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Guy, vous êtes né en pleine dictature en Haïti. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble de grandir sous un tel régime.
C'est particulier parce que, honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs, parce que moi, j'étais gamin. Et plus précisément, je pense que, en fait, pendant ma jeunesse, mon enfance en Haïti, c'était l'époque de Papa Doc, okay. De Baby Doc, pardon. Mm-hmm. Parce que, on va dire, Duvalier était déjà, en fait, le père était déjà mort, en fait, pendant l'époque où moi j'étais enfant en Haïti. Et, donc, c'était, en fait, j'ai pas de souvenir, on va dire, particulier, mais mes parents, pour moi, c'était une période assez spéciale parce que mon père, c'était quelqu'un qui était, on va dire, à sa manière engagé. J'ai suivi un peu de loin comment, avec ses amis, et ils essayaient de s'organiser, les réunions et tout ça. C'était un peu en cachette et tout. C'est des choses qui m'ont marqué, mais j'ai pas, en fait, heureusement, je peux dire, parce que j'étais encore assez inconscient dans l'enfance, donc j'ai pas vécu, et on va dire, la dictature comme je devais le vivre, comme mes parents l'ont vécu. Mais effectivement, il y a des souvenirs, des bribes de souvenirs, même après le départ de Jean-Claude, etc. J'étais enfant en Haïti, et voilà, on a dû fuir la capitale, et c'est des souvenirs très forts, effectivement, qui m'ont marqué.
Et depuis un certain temps, vous installez où en France, là où vous avez réalisé un paquet de bagailles extraordinaires, on va sûrement en parler. Mais racontez-nous comment vous venez ici, pour qui ça, vous choisissez la France.
Et pour moi, en fait, la France, comment dire, c'était aussi, ma jeunesse, c'est vrai que j'étais tellement imprégné, comment dire, aussi fasciné par la littérature française. C'est vrai que maintenant, en fait, c'est difficile de le dire parce qu'à l'école, je me rappelle quand j'étais gamin, et la littérature et tout ça, c'est quelque chose. J'aimais beaucoup ça, mais la littérature haïtienne, j'ai honte de le dire, j'aimais pas du tout. Et moi, je lisais beaucoup Victor Hugo et les poètes français et tout ça. C'est ça qui me faisait rêver. Et donc c'est par la suite, hein. Après, mm-hmm. j'ai redécouvert, en fait, la littérature haïtienne, et pour moi c'était un coup de foudre. Et à l'école, ce qu'on me faisait apprendre, ce que je lis, en fait, j'étais obligé de lire à l'école. En fait, j'ai pas trouvé. C'était peut-être des influences aussi familiales et tout ça. Et pour moi, c'était un rêve. En fait, un rêve. En fait, il faut aussi raison garder. Parce qu'on peut penser, étant en Haïti, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris...
Et là, nous sommes en quelle année?
Au début des années 2000, c'est pas si... Quand je suis arrivé à Paris, on avait tous cette impression-là. À Paris, effectivement, tout le monde parle de culture, de littérature et tout ça, de cinéma. Un bébé, c'est fou. Et vous arrivez à Paris comme ça, vous allez dans un bistrot, ben les gens sont vulgaires. Les gens sont vulgaires, ça s'insulte et tout ça. Ben voilà.
C'est-à-dire, l'haïtien que vous étiez, ou pensez l'arrivée à Paris, tout le monde a parlé littérature.
Mais voilà, c'est ça. C'est ça, vous pensez tout le monde, voilà, tout le monde a parlé littérature, tout le monde cultivé, tout ça, etc. Mais non, pas du tout. Là, c'est la vie réel. Hein, les gens sont dans la banalité du quotidien comme partout ailleurs. Donc c'est vrai que pour moi c'était un choc. En fait, un choc, une façon de parler. Et c'est vrai que c'était pour dire que depuis mon petit, effectivement, pour moi c'était une espèce de voilà. Mais après ça s'est effrité rapidement parce que je viens dans une autre réalité, elle est pas salée. Donc moi-même, je viens en France. En partie, j'étais jeune journaliste en Haïti. En fait, j'ai commencé très jeune, journaliste en Haïti. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que pour moi, c'est une période qui est assez révolue. À l'époque où on est arrivé en France, j'étais pas seul, je suis arrivé avec d'autres amis qui étaient aussi des collègues. Donc, c'était pour des histoires politiques. On arrive ici et on pensait pas rester. On pensait pas rester parce que pour nous, certains d'entre nous qui avaient l'habitude de voyager, etc. Pour nous, Haïti, c'était là où on devait être. Pour nous, destin tout en haïtien, c'est dans le pays. Et après, les choses se sont compliquées. Donc, on est resté, on va dire, par défaut en France. Et c'était un choix par défaut. Et en fait, à titre personnel, moi, je sais pas pour les autres, c'est pas un choix moguette, puisque depuis 20 ans, je vis en France. Et mon fils est né en France. Donc, je m'y suis fait.
Ouais.
Donc, voilà.
Et on fait des études droit à la Sorbonne ici, où gagne tout en maîtrise en sciences de l'information. En 2019, vous lancez avec Tchaïta Vital la plateforme médiatique Haïti Inter. Qui ça qui t'a poussé ou lancé un projet comme ça?
Oui, effectivement. Faut peut-être tourner par le commencement. En fait, pendant une période, j'étais un genre écarté de Haïti parce que t'es tellement de mauvaises nouvelles. Donc là, je me suis réfugié dans autre chose. J'étais dans une espèce de déni. Donc je ne m'informais plus parce que en fait, c'était difficile pour moi de vivre avec le souvenir d'Haïti. En plus, j'avais une partie de ma famille qui était encore là-bas. Donc je m'étais vraiment écarté d'Haïti. Je ne m'informais plus. Mais c'est le séisme 2015 qui crée là quand même un déclic fort parce que je suis retourné en Haïti. Et là, vraiment... Je voulais retourner définitivement dans mon pays. J'ai testé, j'ai essayé. Donc, mais ça n'a pas marché. Je suis revenu comme la plupart des Haïtiens qui ont tenté, mais ça n'a pas marché pour eux non plus. Donc, et c'est à partir de là. Et je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose parce que je suis allé là-bas, j'ai vu, il y a une genèse vraiment qui avait la vie, en fait, qui voulait vivre. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'alternative. Donc, on voulait faire quelque chose. Mais avec Tchaïta, ce qui nous rattachait encore à Haïti, c'était la musique. On était vraiment très, très, très attachés à la musique haïtienne, malgré le fait que moi-même, je ne suis pas encore informé de Haïti. Et là, je me rappelle les vieux vinyles que coûtait mon père et que je gardais encore certains et que j'écoutais encore. C'est des choses qui me sont très précieuses et que j'utilise encore. Et puis avec elles, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose, mais par le prisme de la musique, etc. Donc on s'est dit, on va lancer une web radio pour partager avec les gens la musique haïtienne, mais pas celle qu'on écoute d'aujourd'hui, mais les vieilles chansons d'Haïti, voilà, et ce qu'écoutaient nos parents. Et puis c'est là que ça a commencé. On a commencé à partager déjà dans un cercle assez fermé, surtout qui composait surtout d'amis français et tout ça, de la musique haïtienne et tout ça. Et là, on a vu un tel engouement pour ce côté-là, et puis ça s'est agrandi à la littérature et à tout ce que on sait aujourd'hui. C'est comme ça que le projet a commencé, et puis ça nous est tombé dessus, et puis on s'attendait pas pour le fait que t'as bien autant de monde qui est intéressé encore à ces choses-là. Mais pour nous, ça a été une belle surprise.
C'est un succès fou. Les années folles, peut-être c'est un programme qui t'apprend à lancer et projet ça tout bon. Vous voyez que Tchaïta Vital l'a présenté, il y a une fabrique littéraire que vous-même vous présentez, mais aussi 4 points cardinaux récemment avec le professeur Jean-Marie Théodate. J'ai comme l'impression qu'il y a une envie de présenter le meilleur d'Haïti dans chaque rubrique de cette plateforme. C'est quoi votre credo?
Justement, je pense que là, effectivement, vous l'avez bien, superbement bien résumé, c'est-à-dire que le meilleur d'Haïti, effectivement, parce que au départ, on avait une émission avec Amos Coulanges qui est un,
on va dire, Amosologie.
Un musicien, un guitariste classique haïtien, et voilà, donc Oui, c'est ça le souci, effectivement. Non seulement de ne pas tomber dans le misérabilisme, c'est-à-dire montrer ce côté un peu fataliste, voilà, d'Haïti, on va dire les drames incessants, les drames politiques, les drames, les catastrophes naturelles. Il y a ce côté-là, mais qu'on voulait vraiment, ça nous intéresse pas, et montrer le meilleur d'Haïti. Voilà. Donc, effectivement, on a la chance d'avoir effectivement des artistes géniaux. Voilà, c'est ça. Mais merci de l'avoir mentionné quand même.
Vous avez déjà publié deux livres, Haïti et la folie de Dieu, misère de la religion, religion de la misère. C'est une sorte de réquisitoire contre ce que vous appelez l'obscurantisme religieux en Haïti, presse et pouvoir en Haïti, un livre dans lequel vous parlez de l'antipathie des autorités haïtiennes pour la liberté de la presse. Et vous dites qu'il ne s'agit pas seulement ici d'une affaire de la dictature des Duvaliers. C'est tout dirigeant qui a un problème avec la liberté de la presse.
Oui, justement. Je pense que nous, en fait, je pense que c'est pas peut-être pas le propre d'Haïti, mais en fait, comme ces pays, peut-être nous plus qu'on est, donc effectivement, me senti dans l'histoire politique haïtienne, gagnons forme d'intolérance, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on appelle la liberté d'expression, c'est-à-dire que le fait de, et puis en plus ça va, c'est pas le fait que on va dire le que les politiques ne sont pas contents, mais partout, je pense qu'ici quand on caricature Macron, et voilà, ça ne doit pas lui faire plaisir, mais c'est que ça va très très loin, et c'est-à-dire que les assassinats de journalistes et tout ça, c'est des choses qui sont
une forme d'intolérance
voilà, qui va, et c'est pas uniquement, voilà, on appelle le patron et puis on vous licencie, non, on s'en prend à votre vie, à votre famille, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve très présent dans l'histoire politique haïtienne. J'ai essayé de retracer et tout ça, et jusqu'à récemment, on va dire la montée de Jean-Bertrand Aristide, faite par jusqu'à récemment récemment, je veux dire, dans l'histoire récente d'Haïti, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Aristide, on assassinait encore des journalistes. Et de façon la plus vile du monde. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Je voulais dire un mot aussi sur le premier livre, sur l'obscurantisme religieux. Effectivement, c'est quelque chose, je pense que vous aussi, en tant qu'haïtien, vous l'avez vécu, le mouvement évangélique américain, que j'ai vécu à cette époque, j'ai observé comme une espèce de, on va dire, d'obscurantisme, et voilà, comme une forme d'aliénation culturelle aussi, parce que vraiment, qui nous dit tout ce qu'on est en tant qu'haïtien, et comme avait dit Jean Price Mars, et soyons nous-mêmes. Donc cet obscurantisme-là, il nous dit l'inverse. Hein. Il nous dit de rejeter ce que nous sommes pour aller vers quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Donc j'ai pensé que c'était important de remettre un peu les pendules à l'heure et de rappeler certains fondamentaux. Et aussi, il y avait un côté vraiment pamphlétaire dans ce livre où vraiment j'essayais vraiment d'essayer de déconstruire vraiment le mouvement évangélique, tout en restant respectueux, on va dire, de la foi d'autrui. Il ne s'agit pas, justement, je tiens à le dire ici, il ne s'agit pas non plus d'ostraciser les croyants, et de dire non, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Hein. Ce n'est pas là mon propos, mais c'est plutôt, il y a un discours politique identitaire dans le mouvement évangélique américain que je voulais déconstruire.
Et ces deux livres sont disponibles sur Amazon en version papier et numérique. Votre prochaine publication, c'est bien Digression. Ça parlera de quoi?
Alors, effectivement, parce que, moi, comme je l'avais dit au début, je me suis nourri vraiment d'auteurs allemands beaucoup, parce que je suis un passionné de la littérature allemande, et surtout des romantiques allemands du 18e siècle que je lisais. En fait, je lis beaucoup. Il y a un philosophe allemand que je considère comme un père spirituel, entre guillemets, c'est Arthur Schopenhauer. Effectivement, j'ai lu beaucoup. Donc, il y a tout un tas d'auteurs comme ça. Et on va dire que si je voulais écrire, on va dire des choses, comment dire, des digressions, ce qui m'inspire tout ça. Et par rapport à mon expérience personnelle, effectivement, on va dire que c'est des digressions que je voulais. Mais ça, c'est un projet qui est prêt. Hein. C'est un livre qui est prêt. J'hésite à les publier parce que j'ai d'autres textes, on va dire, qui auraient beaucoup plus d'intérêt pour le public, parce que ça, c'est écrit sous la forme, on va dire, d'un carnet. D'un carnet, effectivement, des annotations, des trucs qui se destinent à moi-même, et qu'il y a beaucoup de méditation là-dedans. Je pense qu'effectivement, ça peut amener à faire réfléchir les gens. En fait, j'ai pas la prétention non plus de... Mais bon, j'estime que ça pouvait intéresser. Mais j'ai d'autres textes, je pense que qui peut-être sur la forme intéresserait plus le public. C'est pour ça que je m'étale là, je travaille surtout à d'autres projets que je pense, et bien voilà, qui sont peut-être... qui serait peut-être plus intéressant pour les gens.
Après film, peut-être rendez-vous parce qu'on a gagné avec le public là.
Un roman, par exemple, mon travail sur un roman, effectivement, là, si ça m'a fait me dévelé, il me dit que je pensais qu'il y a un autre projet peut-être qui a un roman et puis une anthologie tout.
Ok.
Effectivement, sur les poètes haïtiens. Et voilà, en fait, ma fond scoop, c'est sur les poètes maudits. C'est surtout, en fait, il y a une certaine noirceur chez certains poètes haïtiens du 19e siècle. Évidemment, et vraiment qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai quatre ou cinq poètes comme ça. Je voulais faire une biographie, que j'appellerais, on sait pas, c'est un titre provisoire, hein, les poètes maudits d'Haïti. Donc voilà.
Non, mais ça va marcher, c'est sûr.
Ben, j'espère en tout cas.
Guy Férolus, j'étais très heureux de cette discussion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. À bientôt.
Merci Riza Maroum, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler un peu de moi et aussi des projets sur lesquels je travaille. Merci beaucoup. Encore ton yo, allez.
rêve. Ou pas te doit li t'aime. C'est fierté ou gagné. Pas laisser yo blesser. Pas laisser yo blesser. Nous c'est celle père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'à faire plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais la toute bite a brûlé, faut un homme fin calculé. Faut yon apprendre baiser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es la liberté, j'apprends ton résilié. J'apprends ton espéré. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est que les mois qu'a présente. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres, l'homme au cas, mon témoin, pour ça qui près, pour ça qui loin. En sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué, tout le monde s'a y opéré, j'y me la capisé. Mais continuez à marcher, mais je la qu'a rêvé. Le soleil j'a monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie.
Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette édition spéciale de Cause Ekilti. Merci à Léo Travicki pour la réalisation et merci à nos partenaires, l'Institut français en Haïti, l'Ambassade de France en Haïti et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Moi-même, je suis Ritz Amarom Zetren. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. Je vous souhaite d'ici là de passer une excellente semaine sur notre antenne. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.